これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。ヘッペンガ。
Le Gai Savoir.
Une émission de Raphaël Antoven avec Paola Reymann.
À la technique, Bernard Laniel.
Et à la réalisation, François Connac. Romancier sans roman, révolutionnaire sans avenir, moraliste sans cynisme et Adonis devenu laid, Sébastien Roch-Nicolas de Champfort a parfaitement réussi chacun de ses échecs. De lui ne restent que les discours des autres, quelques mauvaises pièces et un recueil de maximes dont le génie n'estompe jamais l'amertume. 40 entre bâtardise, misanthropie, progressisme et maladie, le moraliste vénérien, fils d'une comtesse et d'un chanoine devenu girondin par lassitude, partage avec Antonin Artaud le double fardeau d'avoir été sublime dans la beauté comme dans la laideur et d'être un suicidé de la société. Tous les jours, écrit Champfort, j'accrois la liste des choses dont je ne parle plus. Heureusement, heureusement, Champfort n'a pas tout tu.
Bonjour Raphaël.
Bonjour Paola.
Toujours chez lui cette disposition à penser et à agir contre soi. On le fête dans les salons, il n'y va plus. Il vit d'une pension, c'est lui qui inspire le décret qui les supprime. L'académie le loge et le nourrit, il propose que l'on remplace ses bâtiments par des jardins publics. Il fréquente les jacobins quand la rumeur leur est défavorable, mais il s'en éloigne dès que le peuple les acclame. Homme de cour, il avait tout à redouter de la révolution qu'il désire cependant et dont il s'exclut dès que celle-ci devient une carrière. Quelque chose en lui est toujours disposé à prendre parti contre lui. Champfort suspecte tous les individus qu'il estime. Bientôt, il ne se sentira proche que de ceux qui le persécutent.
Cette aptitude, enfin je ne sais pas si le mot aptitude est si approprié, à penser contre soi de façon presque systématique.
Bien sûr que c'est une aptitude.
C'est ça qui forme le caractère de Champfort ?
Oui, on peut dire ça, oui. Il y a chez lui un talent étonnant et extraordinairement précieux. Précieux non pas au sens péjoratif du terme, mais au sens véritablement où ça a du prix, qui est ce talent de penser contre lui-même. C'est un talent rarissime. Et en général, dans l'histoire des idées, les gens qui sont amenés, les philosophes, les moralistes, amenés à penser contre eux-mêmes, sont ceux que leur idiosyncrasie, comme dit Nietzsche, c'est-à-dire leur parcours, leur trajectoire, leur biographie, etc., portent justement à être mettent en porte-à-faux avec le destin qu'ils peuvent avoir. C'est le cas de Tocqueville, qui se disait lui-même aristocrate de cœur et démocrate de tête, ce qui le mettait en situation de penser et contre lui-même, en défendant la démocratie, et contre la démocratie, en se souvenant de ce qu'il était. Ou en tout cas, de faire la critique de la démocratie. Dans le cas de Champfort, c'est encore plus singulier, puisque à la singularité de son caractère, à la singularité du caractère d'un homme si beau, si talentueux, tellement fêté dans le monde, qu'il peut s'offrir le luxe de négliger ce monde qui le salue, et qui ensuite devient si laid et ostracisé par cette société à laquelle il a commencé par tourner le dos. À cela s'ajoute le fait que Champfort est un moraliste égaré dans un siècle de progrès. C'est un homme qui, en moraliste qu'il est, en héritier, en semblable, en frère de La Rochefoucauld, de La Bruyère, et même peut-être avant eux de Montaigne. En moraliste qu'il est, il fait la genèse ou la généalogie de nos passions, et il s'intéresse à la source de nos passions plus qu'à leur valeur comme telle. Mais dans le même temps, il est pris à l'intérieur d'un siècle qui n'est pas exactement le siècle des moralistes, qui est le siècle suivant, qui est un siècle qui croit au progrès. Et lui-même, d'ailleurs, cède à cette tentation. Champfort n'est pas un cynique, c'est un moraliste sans cynisme, ce qui est une particularité tout à fait singulière.
Mais Raphaël, on parle du caractère de Chamfort. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Parce que du caractère, à quel moment de sa vie ? Est-ce que c'est une aptitude qu'il a dès le début ? Puisque, en tout cas, puisqu'on peut se permettre de parler un petit peu de biographie, au début, Chamfort vit une réussite sociale et il la vit bien. Il a espéré arriver jusqu'au salon, arriver dans cette société mondaine.
L'avantage de la réussite sociale, c'est qu'elle donne les moyens d'être ombrageux. On n'a pas les moyens d'être ombrageux quand on est exclu de partout. Pour être ombrageux, pour faire la gueule au monde, il faut que le monde vous fasse la gueule, ou plus exactement, il faut d'abord que le monde vous célèbre et qu'il vous fasse la gueule ensuite. Mais la possibilité de faire la gueule au monde implique que le monde vous ouvre ses portes. Et c'est ce qui est arrivé à Chamfort. C'est un homme qui a, du coup, injecté dans un univers où il était célébré, le fiel, entre guillemets, de son mauvais caractère. Sans pour autant céder à l'ambition de penser une vertu pour elle-même. La possibilité de transcender le simple calcul d'intérêt au profit de grandes figures, de grandes personnalités. C'est un homme qui déplore deux fois le monde où il se trouve. D'abord parce qu'il fait en moraliste, encore une fois, et on verra dans ses maximes, la genèse de nos passions, donc il sert d'antidote à tout ce à quoi nous adhérons aveuglément. Bon. Et également parce que, en un sens, il épouse la cause progressiste de son temps. C'est un partisan de l'égalité, c'est ce qu'on appelait une tête brûlée. Il a été jacobin, il a été girondin, il a été révolutionnaire, il a été victime de la terreur. C'est un homme donc qui a également soutenu, défendu cette passion fondamentale qui venait clore le XVIIIe siècle. Donc il est à double titre, loin de son époque, d'où l'intérêt d'ailleurs de la préface aux Maximes par Albert Camus, puisque cette préface commence par l'idée que, attendez, la phrase exacte est formidable, Camus dit, donc dans sa préface, oui, pour un homme qui observe le monde sans cesser d'y tenir sa place, il est bien difficile de penser toujours comme Chamfort. Voilà. La position est celle-là. Il n'a jamais cessé d'y tenir sa place et dans le même temps, il n'a jamais renoncé à l'observer. Il est en position, très exactement, de ce que Raymond Aron appellera plus tard un spectateur engagé de son temps. C'est un spectateur de son temps et c'est un analyste formidable. Et c'est un spectateur engagé parce que, et c'est peut-être plus l'effet de son caractère, de son mauvais caractère, que de ses convictions, l'injustice l'exaspère.
J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le thème du caractère, puisqu'on l'emploie beaucoup depuis le début de l'émission. Et c'est un terme qui est attaché à la morale, puisqu'on pense par exemple au caractère de la Bruyère. Mais particulièrement dans le cas de Chamfort, un petit peu comme l'amour propre pour La Rochefoucauld par exemple. Parce qu'on a parlé du caractère de Chamfort, mais Chamfort lui-même parle beaucoup de caractère dans ses Maximes.
Ah oui, c'est un grand penseur du caractère. Alors avant d'entrer peut-être dans le détail de ce qu'il peut dire de cette question du caractère, en tout cas un petit détail, un détail du détail de ce qu'il peut dire du caractère, il faut rappeler que la question du caractère en philosophie est une des questions les plus difficiles qui soient. Et que rares sont ceux qui ont le courage, en fait, de se heurter à cette question. Le premier à l'avoir fait, c'était Aristote. En peu de mots, Paola, et au risque de me répéter aux oreilles de nos auditeurs les plus assidus, pourquoi le caractère est-il une question si difficile en philosophie ? Parce que c'est un troisième terme entre deux options qui, elles, ne présentent aucune difficulté. Option numéro 1, nous avons une essence qui se déploie dans notre existence, qui, comme son nom l'indique, est une sortie de soi de l'essence. De sorte que on regarde le monde comme ce modèle leibnizien de César, dont la monade, ou le caractère, entre guillemets, comportait ou contenait le fait qu'il franchisse le Rubicon un jour. Ça, c'est première version d'une essence qui se déploie dans l'existence et qui ne pose aucun problème. Voilà, tout est écrit au début. Et votre vie ne fait que déployer cela, ce qui pose des problèmes de liberté, naturellement. C'est ce que Kant appelait la liberté du tournebroche. Mais le fait est que, voilà, ça, il n'y a pas de difficulté conceptuelle. L'autre terme, c'est l'existence. C'est-à-dire, c'est l'idée que l'existence précède l'essence. Au fond, nous vivons, rien n'est écrit au départ, mais à la fin, on a vécu. Et libre à nous d'ailleurs de considérer à la fin de la vie que tout ce qu'on a vécu, on devait le vivre, ce qui est une façon de donner un sens à sa vie. Là encore, il n'y a pas de problème. Qu'on considère que l'essence précède l'existence ou que l'existence précède l'essence, il n'y a aucun problème. Avec la question du caractère, on joue sur les deux tableaux. Le caractère emprunte à l'essentialisme le sentiment que faut être forgeron pour forger. Et il emprunte à l'existentialisme le sentiment que si on ne forgeait pas, on ne serait pas forgeron. En d'autres termes, la question du caractère rend, c'est l'œuf et la poule, impossible la saisie d'un point de départ dans l'existence et nous jette d'emblée de plein pied dans la vie, dans une vie avec laquelle il faut composer en tenant compte et de ce que nous sommes et de ce que nous faisons, sans accorder de privilège à une position sur une autre. Et alors, du coup, les analystes du caractère, les penseurs du caractère, pense rarement par concept. La rigidité d'un concept ou d'une théorie, rigidité entre guillemets, mais est rarement adaptée à une matière aussi molle, aussi souple que celle du caractère. Il faut des aphorismes, il faut des maximes, il faut des histoires, il faut de la narration pour dire le caractère. On en dit plus sur le caractère quand on raconte l'histoire d'un forgeron qui devient forgeron en forgeant, si vous voulez, ou en prononçant cela, qu'en élaborant une théorie dont l'abstraction est indifférente au fait qu'un caractère est d'abord jeté dans la vie, ici et maintenant. Et Chamfort qui disait « Quiconque n'a pas de caractère n'est pas un homme, c'est une chose », était lui-même, par son existence et par les bizarreries de son caractère, la meilleure illustration de ce qu'il a essayé de penser. Ensuite.
Vous avez parlé de la façon de peindre le caractère, de le décrire, de l'expliquer. On peut penser à la manière dont Camus, dans la préface de Folio, enfin, qu'on peut trouver dans l'édition Folio, dit que les meilleurs moralistes ne sont pas des faiseurs de maximes, mais des romanciers.
Ouais, on va y venir quand même, hein, parce que sur les faiseurs de maximes et les romanciers.
Mais je me proposais juste de vous lire un passage
allez-y,
la préface où Camus parle du caractère de Chamfort.
Alors, juste avant que vous le lisiez, une phrase, parce que je m'en voudrais de pas la formuler. Pourquoi Camus aime-t-il Chamfort ? Il y a mille raisons à cela. Mais la plus importante, c'est que Chamfort est celui qui a montré à Camus qu'il fallait à un homme, enfin, qu'un homme se devait. Comme on se tient, de ne jamais se donner des principes plus forts que son caractère. Or ça, dire ça aux hommes, si vous voulez, si vous privez le genre humain du réconfort, en quoi consiste le fait de subordonner la médiocrité de son existence à la pérennité d'une vertu? Si vous privez les individus de cette potentialité qui consiste à recouvrir leur petite turpitude, leur petit calcul, d'une haute idée d'un caractère auquel ils voudraient prétendre, si vous les privez de cela, vous les privez de tout. Et quand on dit « il ne faut pas se donner des principes plus forts que son caractère », ça veut dire qu'on renonce une fois pour toutes à toute prétention normative, à toute ambition normative en philosophie. C'est ça que Camus retient de Chamfort. Camus dont la morale, comme vous savez Paola, et comme nos auditeurs le savent, dont la morale est immanente. Ça n'est certainement pas un décalogue. Il n'y a pas de morale de Camus. En revanche, Camus est un être moral. C'est un homme qui, en toutes circonstances, essaie autant que possible d'agir non pas conformément à ce que sa morale lui dicte, mais à ce que sa morale lui inspire. La morale n'est pas un corpus, un décalogue, n'est pas une liste de prescriptions, précisément parce que il ne faut pas se donner des principes plus forts que son caractère. C'est la meilleure façon d'être en dessous de soi. Et qui le fait ? Qui se donne des principes plus forts que son caractère, montre par là qu'il n'a pas de caractère.
Même dans ses plus extrêmes négations, Chamfort n'a pas cessé de prendre le parti des vaincus. Il n'a nui vraiment qu'à lui-même, et pour des raisons supérieures. Certes, je vois bien où sa pensée fléchit. Il a cru que le caractère se définissait par le refus, et il est des cas où le caractère doit savoir dire oui. Comment imaginer une supériorité qui se sépare des hommes ? C'est pourtant celle que Chamfort, et après lui Nietzsche, qu'il aimait tant, ont choisie. Mais lui et Nietzsche ont payé ce qu'il fallait pour cela, faisant la preuve que l'aventure d'une intelligence en quête de sa justice profonde peut être aussi sanglante que les plus grandes conquêtes. C'est une idée qui force au respect. C'est aussi une idée qui porte son enseignement pour nous et notre monde. Je rappelle ici que Chamfort est un écrivain classique. Mais si la cohérence, le goût du raisonnement, la logique même mortelle, l'exigence obstinée de la morale sont des vertus classiques, on peut bien dire que la façon que Chamfort a choisi d'être classique a été d'en mourir. Cela restitue à cette notion la démesure et le frémissement que nos grands siècles ont su lui donner et que nous avons à lui conserver.
Il y a comme ça des hommes dans la vie qui ont la chance d'avoir des préfaciers de cette trempe. C'est une préface magnifique, la préface de Camus. C'est une préface magnifique. Il est amoureux, épris de l'humanité de Chamfort. C'est-à-dire qu'il est épris de son imperfection. Il est épris de ses contradictions. Et il trouve, et ça c'est tellement camusien, une cohérence supérieure à l'intérieur même de ses contradictions. Un homme n'est pas cohérent s'il ne se contredit pas. Un homme n'est pas cohérent si la cohérence qu'il revendique est une cohérence systématique, conceptuelle, abstraite, théorique, ou, pour dire le mot que Camus détestait le plus, c'est quoi le mot ?
Logique.
Logique, exactement. En revanche, un homme est cohérent, il est cohérent de façon intuitive, de façon vitale, de façon organique, quand il assume justement ses contradictions. Alors par exemple, Camus pointe des contradictions dans sa préface formidable. Champfort, on l'a vu tout à l'heure, a dit « il n'est pas bon de se donner des principes plus forts que son caractère ». Super. On est vraiment chez Camus, c'est la source d'un humanisme qui ne repose pas sur les idées générales, mais sur la volonté farouche de penser à hauteur d'homme et de s'intéresser aux vérités qui doivent pourrir. Tout ça prend sa source ici, c'est formidable. Mais Champfort est également le même qui dit « la fortune, pour arriver à moi, passera par les conditions que lui impose mon caractère ». Donc il ne se laisse pas faire non plus, si vous voulez. C'est un mélange de lucidité et d'orgueil. Camus est tellement attentif à ça. Il reconnaît là-dedans une geste absolument magnifique à laquelle il est sensible, infiniment sensible. Et puis, Camus est également sensible dans sa préface au fait que Champfort ne cultive ni l'antithèse ni la formule, dit-il. C'est pas un auteur à aphorismes. C'est un homme qui fait des récits. Alors il n'a pas pousser la logique du récit, la logique narrative à son terme, parce qu'il n'a pas écrit de roman. Mais c'est un romancier. C'est l'auteur, dit Camus, d'un roman inorganisé avec une histoire et un héros lui-même. Et un roman intuitif, un roman en jachère, dont l'ordre latent apparaît à la faveur des anecdotes plus que des aphorismes que Champfort distille dans son texte. Il est romancier au sens où la rédaction d'un roman se fait au terme d'un débat de l'écrivain avec lui-même, au terme duquel les mots finissent par s'organiser comme par magie, si vous voulez. Un débat pendant lequel un homme note des remarques disparates sans savoir pourquoi elles s'y trouvent, avant que les mots ne trouvent leur place, ne trouvent leur sens. Et Camus reconnaît ce talent-là à Champfort, tout en regrettant, et là, c'est là qu'il prend ses distances, Champfort s'est suicidé. Il s'est raté, c'est ce qui est pire encore. Non seulement il se tue, mais en plus il n'y arrive pas. C'est ce que Camus appelle le roman du refus, hein, le récit d'une négation de soi, une course vers l'absolu qui s'achève dans la rage du néant. Champfort s'est suicidé. Et Camus diagnostique, entre guillemets, ce suicide comme l'expression d'un refus. Au fond, Champfort, la seule idole à laquelle Champfort aurait cédé, c'est l'idole de sa mauvaise humeur. Et Camus préfère substituer à l'idée de mauvaise humeur, ou à la mauvaise humeur tout simplement, au fait de la mauvaise humeur, le consentement à ce qui existe. En d'autres termes, il est des moments où un caractère doit savoir dire oui. Ce qu'à ses yeux, Champfort n'a pas su faire, ce qui se discute un petit peu, parce que c'était un homme qui avait aussi beaucoup d'humour.
Oui, d'ailleurs, c'est à Champfort qu'on doit cet aphorisme, il faut bien l'appeler comme ça, où il dit « la plus perdue de toutes les journées est celle où l'on a pari ».
C'est merveilleux, non ? C'est tellement juste. C'est tellement vrai. Ce qui est beau quand même, c'est comment le hasard d'une biographie, et c'est la seule chose qui compte. Les individus vivent, ils font ce qu'ils peuvent dans le temps de la vie, et il se trouve que parfois certaines vies sont l'écrin de phrases qui vont plus loin qu'elles. Cette phrase-là, cet homme qui se suicide, cet homme si triste, qui est également celui qui a su dire cette phrase dont la justesse est absolue, à savoir qu'une journée perdue, c'est une journée où l'on a pari.
Un sans-culotte était venu dans la soirée lui signifier que la Révolution ne souffrait pas que l'on compare, comme il l'avait osé, la fraternité célébrée par Marat et Robespierre à celle de Caïn pour Abel. Déjà ébranlé par un récent séjour aux Madelonnettes, Champfort, qui avait pu contempler à loisir l'agonie de sa société, décide alors d'y adjoindre l'épilogue de son propre anéantissement. Il se retire dans sa bibliothèque, il s'y enferme, prend un pistolet, le presse contre sa tempe. Il veut, jusqu'à la frénésie, en finir avec une existence à laquelle il avait pourtant concédé, dans son âge libertin, toutes sortes d'avantages et d'agréments. On affirme cependant que la balle partit de travers, et qu'au lieu de lui emporter le crâne, elle ne parvint qu'à arracher son nez et son œil droit. Étonné de vivre, affaibli par la douleur, résolu de mourir, Champfort peut encore se saisir d'un rasoir afin de s'ouvrir la gorge. il n'y réussit qu'à peine, déchirant ses chairs en mains endroits tout en cherchant son cœur à grands coups de lame. Dans un ultime effort, il tente enfin de trancher ses jarrets, puis, en l'honneur de Sénèque, de tailler ses veines. Mais Sénèque était riche et entouré de disciples. Il disposait d'un bain chaud pour assurer son trépas, tandis que Champfort n'a que les moyens de se suicider dans le dénuement. Il s'effondre. Je vois son sang qui coule sur le parquet sous la porte qu'on enfonce bientôt. On prétend le sauver. Un médecin va le recoudre en hâte, lui infligeant le supplice de survivre peu et pour rien.
Il faut savoir faire les sottises que nous demande notre caractère. C'est le paragraphe 59 des Maximes Raphaël.
Que voilà une opportune citation.
Est-ce qu'on peut se demander si le suicide n'est pas justement une des sottises du caractère de Champfort ?
Peut-être, oui, peut-être. Vous savez ce qu'il dit, le philosophe qui veut éteindre ses passions ressemble au chimiste qui voudrait éteindre son feu. Ami normatif, ami qui pensait que la sagesse dictera vos décisions, voici pour vous. Ou alors il dit « on fausse son esprit, sa conscience, sa raison, comme on gâte son estomac ». Ce qui est très important de dire ça, parce que c'est indexer les passions de l'esprit et donc les idées que nous avons sur les logiques du corps justifie qu'on se suicide uniquement parce qu'on est de mauvaise humeur.
On voit aussi par cela où Nietzsche a pu prendre beaucoup d'intérêt à Champfort, pas seulement par là, par des quantités d'autres choses, mais voilà où...
Mais Nietzsche est un élève de Champfort. Nietzsche avait une passion pour Champfort. Nietzsche avait une passion pour les moralistes français, car en un sens, Nietzsche est un moraliste français. Le nietzschéisme de Champfort, si j'ose dire, ou le champfortisme de Nietzsche est omniprésent. Et il est présent d'ailleurs dès Humain trop humain, c'est-à-dire dès le livre que Nietzsche dédie à Voltaire. On a parlé du moment des Lumières de Nietzsche, enfin c'est la fin des années 70. Il est sensible à ça, mais l'affection que Nietzsche porte à Champfort est supérieure, je crois, à l'affection que Nietzsche porte à Voltaire, dont il admire l'ironie, mais dont, en un sens, l'enthousiasme collectif de temps en temps le déconcerte. Alors avec Champfort, c'est plus compliqué. Champfort, c'est le... Vous savez, on dit toujours qu'il faut un bon juif à tout antisémite, ou il faut un bon antisémite à tout juif. Il fallait un bon progressiste à Nietzsche. Je crois que Champfort, c'est le bon progressiste de Nietzsche. C'est-à-dire, c'est un progressiste totalement désespéré et qui est le premier à ne pas croire aux thèses qu'il défend. Mais il y a des phrases de Champfort, en revanche, qu'on retrouve quasiment mot pour mot dans la généalogie de la morale, puisque vous citez ça. À un moment, Champfort dit « Avoir le soin que les conventions sociales paraissent avoir pris d'écarter le mérite de toutes les places où il pourrait être utile à la société, en examinant la ligue des sceaux contre les gens d'esprit, on croirait voir une conjuration de valets pour écarter les maîtres. » C'est un partisan de l'égalité qui dit ça. Une conjuration de valets pour écarter les maîtres. C'est dire que dans l'esprit de Champfort, valets et maîtres ne sont pas des déterminations sociales, mais des déterminations psychologiques. On peut être un maître et avoir une âme de valet. Ça n'est certainement pas la position sociale qui détermine le titre, c'est la psychologie et c'est le rapport qu'on entretient à sa propre position sociale.
En vous écoutant, ça vient de m'évoquer un film de Joseph Losey, The Servant, où, et c'est exactement ce qui se passe entre le personnage de Tony, qui est l'aristocrate londonien, et le personnage de Barnett, qui lui est le valet. Évidemment, dans leur rapport, tout s'inverse progressivement, et ça en fait un couple passionnant.
On n'avait pas prévu d'en parler, Le Gai Savoir est une émission magique. François Connac a tout dans sa musette, on va l'entendre tout de suite.
I'm coming to get you. I'm creeping up on you. I can smell a rat. I can smell a rat!
On a dit à un moment dans cette émission, en parlant de la préface de Camus, que ce qu'aimait entre autres Camus chez Champfort, c'est qu'il ne, à l'inverse de La Rochefoucauld, il ne se plaisait pas à faire des aphorismes, des phrases qu'on pouvait inverser, etc.
Le dîmes que parce que Camus l'avait dit avant nous, oui.
Et ce qu'on constate, en tout cas même ce qu'ont pu entendre les auditeurs en nous écoutant, c'est qu'on ne fait que citer presque des aphorismes de Champfort. Il y en a tellement.
Mais bien sûr. Alors... En fait, Camus ne dit pas que Chamfort ne fait pas d'aphorismes, ou plutôt... Les aphorismes sont un dommage collatéral d'une narration qui n'arrive pas au bout de son processus, c'est-à-dire qui n'arrive pas jusqu'au roman qu'elle promet, dans l'analyse que Camus propose de l'œuvre de Chamfort. Et donc oui, il reste des aphorismes comme il y a des fragments dans quelque chose qu'on n'a pas su rassembler, au fond. Je sais pas. C'est au lecteur d'en décider. Mais enfin, des aphorismes, dans l'œuvre de Chamfort, il y en a autant que chez La Bruyère ou que chez La Rochefoucauld, c'est-à-dire que chez les maîtres de l'aphorisme. « La pensée console de tout et remédie à tout », dit Chamfort. « Si quelquefois elle vous fait du mal, demandez-lui le remède du mal qu'elle vous a fait et elle vous le donnera. » Si ça, c'est pas un aphorisme.
Il y en a un que j'aime beaucoup. C'est la meilleure philosophie relativement au monde et d'aller à son égard le sarcasme de la gaieté avec l'indulgence du mépris.
D'allier à son égard le sarcasme de la gaieté avec l'indulgence du mépris. Au lieu de vouloir corriger les hommes de certains travers insupportables à la société... Il aurait fallu corriger la faiblesse de ceux qui les souffrent.
Amour, folie aimable, ambition, sottise sérieuse.
Oh oui, c'est beau ça. Les hommes deviennent petits en se rassemblant. Je crois que c'est ma préférée, celle-là. Comment on peut faire tenir, vous vous rendez compte, en 7 mots, la totalité de ce que Nietzsche, pour le coup, a pu dire d'un tempérament grégaire. C'est-à-dire de l'idée que, vous savez, c'est Nietzsche qui dit « Jadis, le moi était perdu dans le troupeau, désormais c'est le troupeau qui est perdu dans le moi ». Les hommes deviennent petits en se rassemblant. C'est magnifique. C'est magnifique et on comprend d'ailleurs en quoi, du coup, il faut protéger le fort contre le faible. Le faible, c'est celui qui se rassemble, précisément, qui se rassemble avec d'autres, pas avec lui-même. Et c'est celui dont le rassemblement fait qu'à la façon d'une fourmilière qui s'en prend à un lion, il est beaucoup plus fort que le fort. Les hommes deviennent petits en se rassemblant, c'est admirable.
Et il y en a une autre sur l'ambition, puisque j'en ai cité une. C'est l'ambition prend aux petites âmes plus facilement qu'aux grandes, comme le feu prend plus aisément à la paille, aux chaumières qu'au palais.
Oui, et là encore, les petites âmes, il faut bien... C'est tellement important ça. Les petites âmes, ce sont les âmes petites. Ce ne sont pas les petites gens. Les petites âmes, ce sont les âmes étroites. Ce sont les âmes petites. C'est-à-dire, c'est une âme qui se satisfait de donner un sens à sa vie en lui donnant un but. L'une des questions les plus faciles en philosophie, c'est la question du sens de la vie. Pour le coup, autant la question du caractère est difficile, autant la question du sens de la vie est une tarte à la crème. D'ailleurs, aucun philosophe qui s'est heurté à cette question n'a répondu autrement à cette question que par « le sens de la vie, c'est le but qu'on se donne ». Donnez-vous un but, vous aurez un sens à votre vie. Vous serez un mort en sursis et le jour où vous arriverez au but que vous vous êtes donné, vous ne saurez plus quoi faire. Mais c'est très commode de se donner un sens à la vie. C'est très facile, c'est tout à fait aisé. Mais c'est le propre des âmes petites, c'est-à-dire l'ambition. Et il faut vraiment bien comprendre que la petitesse est une petitesse de l'âme. Ça n'est pas une petitesse sociale. C'est une disposition très importante chez Chamfort. C'est encore plus important chez lui que chez les autres parce qu'il y a cette dimension politique et cette adhésion à la cause révolutionnaire. Vous savez que c'était Chamfort qui écrivait les discours de Mirabeau.
Mais je voulais juste revenir de même que lorsqu'on avait parlé de Coriolan, on avait dit que le peuple, ça ne regroupait pas forcément les plébéiens ou la classe sociale, mais que c'était un état d'âme propre.
Oui, c'est la disposition grégaire du caractère. Voilà. C'est ce que nous avons de collectif en nous, qui est infâme, au fond. Qui est con, voilà. Qui est détestable. À la façon d'une foule. Toutes les foules sont sottes. Et pourtant, c'est en un sens l'optimisme des moralistes, ça. C'est un optimisme dont ils ne peuvent pas se défaire. L'optimisme des moralistes, c'est de dire, certes, les foules sont bêtes, mais chaque individu qui la compose est en droit, lui, extrêmement intelligent. Et d'ailleurs, quand on fait une émission de radio, je parle de France Culture, quand on fait une émission de radio, on ne s'adresse pas à une foule d'auditeurs. Non pas parce que les auditeurs sont peu nombreux, c'est pas vrai, ils le sont de moins en moins un peu nombreux. Mais on s'adresse à chaque paire d'oreilles. D'ailleurs, il dit lui-même, il y a plus de fous que de sages, et dans le sage même, il y a plus de folie que de sagesse. Un homme qui dit ça est un homme qui est attentif précisément à ce qui, en chacun, relève d'un millionième de dissemblable, ce qui en chacun relève d'une différence irréductible. Et pour vous dire à quel point d'ailleurs il n'a pas de... Les grandes âmes ne sont pas les âmes dont la société consacre la hauteur factice, grandeur d'établissement, Chamfort et pascalien. Il dit ceci, j'aime beaucoup, si les singes avaient le talent des perroquets, on en ferait volontiers des ministres. Donc voilà l'idée que Chamfort se fait en un sens de l'exercice du pouvoir ou des grandeurs d'établissement.
On a parlé du caractère de Chamfort. Il y a un autre philosophe qui a un caractère bien trempé, c'est Rousseau, et qu'on retrouve Dans les Maximes de Champfort, il y a une affinité entre Champfort et Rousseau.
Oui, il y a une affinité très profonde entre Champfort et Rousseau. Et ça, c'est une des richesses de l'œuvre de Champfort, qui est profondément pascalien. Peut-être, si vous m'en donnez l'occasion, Paola, on pourra dire un tout petit peu comment ça fonctionne. Il a donné le jour à la moitié de Nietzsche. Dire la moitié, en tout cas la généalogie de la morale, quoi. Plus encore que la Bruyère, je crois. Il a donné le jour à ça. Mais c'est un ombrageux. C'est un mauvais coucheur. Ça l'a rendu. Bon, voilà, il est rousseauiste. Mais alors, il est rousseauiiste de plein de manières. Par exemple, je l'ai cité tout à l'heure, tous les jours j'accrois la liste des choses dont je ne parle plus. Vous vous souvenez du début des rêveries du promeneur solitaire?
En substance, mais...
Me voici donc seul sur la terre, dit Rousseau en toute humilité. Me voici donc seul sur la terre. Et il continue en faisant la liste de tous les gens auxquels il ne pense plus. Or, Champfort a plus d'humour que Rousseau. Si vous voulez, Rousseau avait un problème d'humour. Champfort a plus d'humour que Rousseau en disant, comme Rousseau le fait, tous les jours, j'accrois la liste des choses dont je ne parle plus. Mais il est rousseauiste de façon plus profonde, moins anecdotique. Quand il dit, par exemple, l'homme... Dans l'état actuel de la société, me paraît plus corrompu par sa raison que par ses passions. Ces passions, j'entends ici celles qui appartiennent à l'homme primitif, ont conservé dans l'ordre social le peu de nature qu'on y retrouve encore. Mais ça, c'est Rousseau complètement. Puisque quand Rousseau distingue l'amour propre de l'amour de soi, il fait valoir le fait qu'il existe une survivance de l'amour de soi, malgré l'entrée en société, malgré l'entrée dans l'histoire, malgré le fait que les hommes ont dû pactiser les uns avec les autres et se sont corrompus en le faisant. Malgré tout cela, il reste quelque chose qui relève de l'amour de soi. Champfort conserve lui-même cette idée-là, cette intention-là. Il est très clairement dans la même veine. Il est dans la même veine que Rousseau sur le thème de l'éducation. Quand il faut avoir en tête les thèses de l'Émile, mais même sans le savoir, même en ayant une idée générale de ce que Rousseau raconte dans l'Émile, écoutez Champfort, on ne cesse d'écrire sur l'éducation. Et les ouvrages écrits sur cette matière ont produit quelques idées heureuses, quelques méthodes utiles. On fait en un mot quelques biens partiels. Mais quelle peut être en grand l'utilité de ces écrits tant qu'on ne fera pas marcher de front les réformes relatives à la législation, à la religion, à l'opinion publique ? L'éducation n'ayant d'autre objet que de conformer la raison de l'enfance à la raison publique, relativement à ces trois objets, quelle instruction donner tant que ces trois objets se combattent ? En formant la raison de l'enfance, que faites-vous que de la préparer à voir plutôt l'absurdité des opinions et des mœurs consacrées par le sceau de l'autorité sacrée publique ou législative, par conséquent à lui en inspirer le mépris ? Là encore, l'erreur de l'éducation, c'est qu'elle formate alors qu'elle devrait former des individus, et Champfort est le premier avant Rousseau à le dire, avant ou après? Après d'ailleurs, parce que l'Émile c'est 1762, les Maximes viennent plus tard bien sûr. Donc c'est après Rousseau à le dire. Et puis Champfort, il est rousseauiste, vous savez, dans ce mélange de haine de l'opinion publique, doublé d'un éloge d'une certaine sagesse populaire. Alors il cesse de l'être quand son pessimisme devient plus affirmateur, drôle, humoristique, contrairement à Rousseau qui se complaît dans la solitude.
C'est pour ça, tout à l'heure, ouais. Vous avez dit que c'était un petit peu accidentel, anecdotique, le manque d'humour de Rousseau et celui de Champfort, mais c'est justement par là qu'ils divergent. Donc c'est pas si anecdotique.
Oui, d'ailleurs, Champfort cesse d'être rousseauiste quand il se lance, par exemple, dans un éloge de la plaisanterie. On trouve pas ça chez Rousseau, à ma connaissance. C'est la plaisanterie, dit-il, qui doit faire justice de tous les travers des hommes et de la société. C'est par elle qu'on évite de se compromettre. C'est par elle qu'on met tout en place sans sortir de la sienne. C'est elle qui atteste notre supériorité sur les choses et sur les personnes dont nous nous moquons, sans que les personnes puissent s'en offenser, à moins qu'elles ne manquent de gaieté ou de mœurs, confère Rousseau. La réputation de savoir bien manier cette arme donne à l'homme d'un rang inférieur dans le monde et dans la meilleure compagnie cette sorte de considération que les militaires ont pour ceux qui manient supérieurement l'épée. J'ai entendu dire à un homme d'esprit, ôtez à la plaisanterie son empire et je quitte demain la société, c'est une sorte de duel où il n'y a pas de sang versé et qui, comme l'autre, rend les hommes plus mesurés et plus polis.
Je crois reconnaître votre obligé. Tout frais de votre belle province, vous devez avoir un regard aiguisé sur les ridiculités de la cour.
Il est écrit, ne juge point et tu ne seras point jugé.
Vous pensez bien que si les évangiles étaient de quelque utilité à Versailles, cela serait venu à ma connaissance. Joignez-vous à notre parti, si le cœur vous en dit. Nous jouons à 10 sols le point.
Les boucles d'argent de mes souliers sont ma seule richesse. Mais vous pouvez les estimer de plus près, en vous courbant bien.
Et il y a la plaisanterie, mais il y a aussi tout simplement la conversation. Et ça on ne trouve pas non plus chez Rousseau. Et c'est très beau ce qu'il dit. C'est le paragraphe 265. Les conversations ressemblent au voyage qu'on fait sur l'eau. On s'écarte de la terre sans presque le sentir. Et l'on ne s'aperçoit qu'on a quitté le bord que quand on est déjà bien loin.
Ça encore, d'ailleurs, on retrouve ça chez Nietzsche dans le paragraphe sur le... Juste avant le paragraphe 120 du Gai Savoir sur l'insensé, qui annonce la mort de Dieu, etc. Juste avant, il y a le petit navire qui prend le large. « Prends garde, petit navire, car tu n'as plus de terre maintenant que tu es au milieu des océans. » C'est évidemment, là encore, un souvenir de ça. C'est vrai que quand on discute de façon informelle, à bâton rompu, parfois, la discussion prend conscience d'elle-même, on sort de la discussion, on dit « mais d'où on est parti pour en venir là ? D'où on vient ? Comment on a parcouru ce chemin ? Comment ça s'est fait ?» Et Champfort ne dit pas autre chose. Il y a dans la conversation quelque chose de plus profond que dans la discussion, dans la dialectique d'une discussion. C'est-à-dire, c'est un chemin de promeneur. C'est pas un voyage, une conversation. Le voyage va de A à Z. La conversation est une errance. C'est une errance ordonnée, de façon immanente, qui s'ordonne elle-même à mesure qu'elle se déploie, à la façon dont, quand on improvise, on construit malgré tout un édifice biscornu, baroque, bizarre, etc. Mais enfin, une maison dont les fondations tiennent. Enfin, si les fondations sont bonnes, l'édifice tiendra, parce que précisément la conversation est cette géniale improvisation qui fait qu'au bout d'un moment, on a oublié le lieu d'où nous étions partis. Cela dit, sur Champfort et Rousseau, il n'est pas rousseauiste quand il parle de plaisanterie, il n'est pas rousseauiste quand il parle de conversation, il l'est bien davantage quand il parle des bons sauvages. Le paragraphe 24 est un éloge de certains sauvages de l'Afrique qui croient à l'immortalité de l'âme et qui, ne la trouvant pas, abandonnent cette recherche et n'y pensent plus. C'est à peu près, ajoute Champfort, ce que nos philosophes ont fait et avaient de meilleur à faire. C'est formidable de dire que ce que les philosophes avaient de meilleur à faire, de dire au XVIIIe siècle que ce que les philosophes avaient de meilleur à faire, c'est la même chose que les bons sauvages de l'Afrique. C'est magnifique. Champfort est rousseauiste quand il parle de Robinson. Quand il présente Robinson dans son île privée de tout, forcé aux plus pénibles travaux pour assurer sa subsistance journalière, et dont il rappelle que si l'île avait été enchantée, si tout était allé pour le mieux dans le meilleur des mondes pour Robinson... Si l'île avait été pourvue de tout ce qui est agréable à la vie, peut-être le désœuvrement lui eût-il rendu l'existence insupportable. Là encore, on est chez Rousseau. Et puis que voulez-vous, il est rousseauiste parce qu'il n'aime pas la raison. Enfin, il remet la raison à sa place, c'est-à-dire pas au centre. Il y a de la misologie chez Champfort. Pour parvenir à pardonner à la raison le mal qu'elle fait à la plupart des hommes, on a besoin de considérer ce que ce serait que l'homme sans sa raison. La raison était un mal nécessaire, mais, ajoute-t-il, notre raison nous rend quelquefois aussi malheureux que nos passions, et on peut dire de l'homme, quand il est dans ce cas, que c'est un malade empoisonné par son médecin.
Comment, dans ce contexte, distinguer entre la bâtardise, la misanthropie, la maladie et le progressisme d'un homme qui se présente désormais comme un moraliste vénérien ? Son propre corps s'est défait, comme l'Ancien Régime. Ses convictions, ravivées par l'émeute, ne sont plus qu'un tissu de colère. À la généalogie verticale des aristocraties, dont il espéra son premier destin, Champfort oppose maintenant une généalogie horizontale. La révolution, pour lui, c'est l'éloge de la fraternité contre les prestiges de la filiation. Plus de père, plus de postérité. Seul compte l'égalité qui donne l'illusion d'un temps sans avenir ni passé. Champfort a changé. Il veut, pour renaître, hâter une vaste destruction. Il se dépouille, il s'enivre de nihilisme. Il est saisi par le vertige des pénitences. Il devient l'ami d'un comte qui se réjouit parce que les esclaves de Saint-Domingue l'ont ruiné par leur révolte. Et, avant de se lacérer physiquement, Champfort veut s'amputer de celui qui en lui exista autrefois. Il veut s'effacer et s'oublier. Il veut que le feu rejaillisse des volcans éteints et que l'histoire... plus sûrement que son improbable pureté, hâte la rédemption à laquelle il ne saurait prétendre par lui-même.
En lisant les Maximes de Champfort, on ne peut pas, à moins d'être vraiment pas attentif, ne pas être saisi par une sorte de déchirement entre le désespoir de Champfort qui pointe dans tellement d'aphorismes et en même temps une impression parfois très légère d'enthousiasme.
Légère ou forte. Il y a un enthousiasme révolutionnaire, sur lequel il est revenu aussi. Hein. Mais il y a un enthousiasme, ne serait-ce qu'en se suicidant, il y a un enthousiasme révolutionnaire.
Ne serait-ce qu'en se suicidant
C'était le contexte de la terreur. Il y était acculé, un peu comme Sénèque d'ailleurs. Mais en réalité, son suicide lui est dicté, pas tant par la déconvenue devant le phénomène révolutionnaire. C'est pas Stefan Zweig, si vous voulez, Champfort, qui se tue parce que l'humanité est devenue dingue. C'est pas tellement la déconvenue, c'est surtout le... Comment dire ? C'est un symptôme de plus de ce qui l'a fait adhérer à l'idéal révolutionnaire. C'est son désespoir qui le fait adhérer, je crois très profondément, à l'idéal révolutionnaire. C'est parce qu'il est désespéré qu'il y croit. C'est parce qu'il est désespéré qu'il y croit, et la forme prise par son désespoir, l'une des formes prises par son désespoir, c'est l'enthousiasme. Ce qui est le cas chez bien des gens, d'ailleurs.
Est-ce que c'est par là, Raphaël, que Champfort échappe au cynisme ?
Tout à fait. C'est par son désespoir qu'il y a, dans Champfort, dans son œuvre, quelque chose qui n'est pas réductible au cynisme, c'est-à-dire... Par cynisme, j'entends ici à la constante déconstruction des vertus ou au constant rappel propre aux moralistes du fait que derrière nos grandes vertus nobles, il y a des pulsions mortifères, éventuellement mortifères. Il y a quelque chose en Champfort qui échappe à ça et je crois que c'est son désespoir qui le fait adhérer à l'espoir d'une vertu pour elle-même. Voyez, par exemple, l'anti-cynisme de Champfort est vraiment une affaire intéressante, mais restons sur la vertu pour elle-même. Supposons qu'on eût employé, dit-il, pour éclairer les dernières classes, le quart du temps et des soins qu'on a mis à les abrutir. Supposez qu'au lieu de leur prêcher cette doctrine de patience, de souffrance, d'abnégation de soi-même et d'avilissement si commode aux usurpateurs, on eût prêché celle de connaître leurs droits et le devoir de les défendre. On eût vu que la nature, qui a formé les hommes pour la société, leur a donné tout le bon sens nécessaire pour former une société raisonnable. Je crois que c'est son désespoir qui lui fait dire ça. Je crois que c'est son désespoir qui fait qu'il continue d'adhérer à cela. Un peu plus loin. Il faut qu'un honnête homme ait l'estime publique sans y avoir pensé, et pour ainsi dire malgré lui. Celui qui l'a cherché donne sa mesure. Un peu, il dit d'ailleurs dans la même veine, il dit « L'honnête homme joue son rôle le mieux qu'il peut sans songer à la galerie. » Alors, c'est intéressant. Souvenez-vous de Bergson dans L'énergie spirituelle qui dit « On ne croit à l'honneur et aux récompenses » et aux médailles, que dans la mesure où l'on n'est pas sûr d'avoir réussi. Champfort est le premier à dire ça. Il est l'un des premiers à dire que la vertu est en elle-même sa propre récompense. Et qu'au fond, comme en surface, ce qui compte, ce ne sont pas les dividendes de la vertu, mais c'est l'exercice de la vertu. Champfort est celui qui pense comme cela. Un acte de vertu, un sacrifice ou de ses intérêts ou de soi-même, est le besoin d'une âme noble, l'amour propre d'un cœur généreux, et en quelque sorte, et ça c'est sublime, l'égoïsme d'un grand caractère. Champfort est celui qui ne renonce pas à l'idée qu'on peut ne tenir dans la main de personne, être l'homme de son cœur, de ses principes, de ses sentiments. Mais il dit, c'est ce que j'ai vu de plus rare.
De même, ce qu'il dit pour l'amitié est loin, mais très loin d'être cynique. Lorsqu'il dit, c'est le paragraphe 13, on fait quelquefois dans le monde un raisonnement bien étrange. On dit à un homme, en voulant récuser son témoignage en faveur d'un autre homme, c'est votre ami. Et morbleu, c'est mon ami parce que le bien que j'en dis est vrai, parce qu'il est tel que je le peins. Vous prenez la cause pour l'effet et l'effet pour la cause. Pourquoi supposez-vous que j'en dis du bien parce qu'il est mon ami ? Et pourquoi ne supposez-vous pas plutôt qu'il est mon ami parce qu'il y a du bien à en dire ?
Champfort décrit ici cette imputation dégueulasse qui consiste à dire « si tu le défends, c'est que c'est ton pote ». Alors c'est dégueulasse parce que c'est un procès d'intention et dans le même temps, il arrive que ça soit vrai. Mais en faisant peser sur la défense de quelqu'un le soupçon que cette défense ne vient pas du contenu de ce que la personne a dit, mais des relations que nous entretenons avec cette personne-là, en faisant peser ce soupçon-là, on discrédite à l'avance les arguments avancés par la personne qui défend celui dont il est question. Puisqu'on dit, ce qui compte n'est pas ce que vous dites, ce qui compte, c'est les motifs pour lesquels vous le dites, et les motifs, eux, ne sont pas dictés par la raison, mais ils sont dictés par l'affection, ils sont dictés par l'affect, par l'amitié. Or, Champfort dit, mais attendez, il arrive aussi qu'on défende quelqu'un, pas seulement parce qu'on est ami avec lui, mais parce qu'il a raison. Parce que, voilà, parce qu'il a raison, parce que c'est bien. Vous vous souvenez dans l'éthique, de Spinoza, c'est pas parce qu'une chose est bonne que je la désire, c'est parce que je la désire qu'elle est bonne. C'est dans le livre 2 de l'éthique que Spinoza parle de ça, dit ça. Et le désir dont il parle est un désir qui n'a pas encore subi cette réforme que la connaissance doit permettre in fine et que l'amour intellectuel de Dieu est censé permettre au terme de l'éthique. C'est un désir dont l'objet qu'il se donne est tributaire. Ça n'est pas un désir qui dépend de l'objet, c'est l'objet qui dépend du désir. Et Chamfort inverse cette proposition en faisant valoir que parfois l'objectivité d'un objet peut l'emporter sur les raisons qu'on aurait de défendre un tel plutôt qu'un autre. Il conserve cette soi. C'est vraiment là qu'il n'est pas cynique. Là où il n'est pas cynique encore, c'est dans l'idée que, pour Chamfort, le monde est une scène de théâtre. Et ce qui, d'ailleurs, on l'a vu quand on a parlé de Camus, n'est pas une profession de mélancolie, pas forcément. On croit que c'est mélancolique de dire que le monde est une scène de théâtre parce que le premier à l'avoir dit officiellement, c'est Jacques le mélancolique. Voilà, donc dans Comme il vous plaira. All the world's a stage. Le monde entier est une scène de théâtre, etc. Bon. Donc on croit que c'est un aveu de mélancolie. En vérité, tenir le monde pour une scène de théâtre, c'est être comme Camus ou comme Chamfort en position d'observateur et considérer que les hommes interprètent un rôle qui s'écrit à mesure qu'ils le jouent, justement. Mais pour Chamfort, tout n'est pas une scène de théâtre. La fortune et le costume qui l'entourent font de la vie une représentation au milieu de laquelle il faut qu'à la longue, l'homme le plus honnête devienne comédien malgré lui. Bien. La société, ajoute-t-il, les cercles, les salons, ce qu'on appelle le monde, est une pièce misérable, un mauvais opéra sans intérêt qui se soutient un peu par les machines et les décorations. Mais Chamfort suspend son cynisme au regret d'un monde meilleur. Il dit « Il est impossible de vivre dans le monde sans jouer de temps en temps la comédie. » Et c'est ça qui est fort. C'est qu'il est possible de ne jouer la comédie que de temps en temps. Si on était nietzschéen, on dirait que l'individu qui prétend ne plus jouer la comédie joue la comédie du type qui veut plus jouer la comédie. Modèle Jean-Pierre Raffarin. Vous savez, quand Jean-Pierre Raffarin était arrivé à Matignon, c'était très intéressant. Il disait, vous savez, moi, avant, il y avait Lionel Jospin, c'est un énarque. Moi, je ne viens pas de l'ENA, on n'a pas grand-chose à se dire. Moi, je suis un homme du cœur, je ne suis pas un homme de dossier. Je suis là pour parler aux gens, je veux les entendre, je veux écouter les artisans, les Français, la France d'en bas. Du point de vue nietzschéen, ça donne quoi? L'homme qui tombe les masques porte le masque du type qui tombe les masques. Voilà, c'est un masque de plus. La franchise est un masque de plus. Donc, on n'en sort pas. Alors, il y a chez Chamfort la possibilité de s'affranchir de ça. Il y a une petite sortie de ça. C'est là qu'il n'est pas cynique. C'est par exemple dans le fait que Chamfort fasse défendre la prudence de l'aigle contre la prudence de la taupe. Il dit « Il y a une prudence supérieure à celle qu'on qualifie ordinairement de ce nom. L'une est la prudence de l'aigle et l'autre celle des taupes. » La première consiste à suivre hardiment son caractère en acceptant avec courage les désavantages et les inconvénients qu'il peut produire. Il y a ici une possible sortie de la déconstruction générale ou de la destruction générale de ce à quoi l'on peut croire, dans la mesure où il existe des individus qui ne jouent pas. Il y a ce soupçon-là chez Chamfort. Alors, c'est son désespoir peut-être qui le lui fait dire, au terme d'un ultime paradoxe, mais c'est là qu'il s'éloigne, en un sens, de son héritier Nietzsche, et en même temps, peut-être pas.
France Culture, le Gai Savoir.
Raphaël Antoven.
Chamfort ne compose pas de maximes, car celles-ci, dosant leur équilibre, exigent une âme sereine. Mais il est expert en traits à pointe sèche, en bribes sculptées à même la réalité. Pourquoi Louis XIV, sur son lit de mort, se croit-il tenu de congédier le médecin qui ose lui dire « il faut » Et comment un riche seigneur de ses relations peut-il faire pendre un marmiton innocent à la place d'un cuisinier coupable, mais dont il adore les sauces? Ces séquences d'un univers en suspens attisent son dégoût, sans l'embarquer encore vers l'effroi. Une cruauté civile et de bon aloi gouverne sa première carrière, réduisant l'amour au contact de deux épidermes ou plaidant en faveur d'un cœur qui se brise ou se bronze. Ce Chamfort, roué et rompu au monde, est capable de vexer un duc, mais il a encore la faiblesse d'en craindre le mépris. Et, par vanité, ou pour oublier qu'il ne connaît pas le nom de son père, il fait semblant de prendre ses quartiers dans les sonorités altières d'un grand siècle qui a déjà disparu. Le sens de l'intrigue, le souci de n'arriver que par le rouge ou le noir, lui impose là des cambrures et des âpretés qui ne touchent guère. Pendant plus de 15 ans, Chamfort sera ainsi tout le contraire de lui-même. Il faudra attendre qu'une vérole, soudain, le défigure et l'ensauvage. Il faudra aussi qu'une cabale conduite par la harpe le contraigne dès 1776 à son exil d'Auteuil pour que cet arrière-cousin de Pascal ravive en lui le jansénisme auquel il n'aurait peut-être pas cédé s'il n'était devenu laid et seul.
On a parlé de l'affinité entre Rousseau et Chamfort. Il y a aussi évidemment un lien entre Pascal et Chamfort, et on a entendu l'épisode du duc, la possibilité de vexer un duc. Comment ne pas penser à la grandeur des ducs dans Pascal?
Vous voulez dire au discours,
oui,
sur la condition des grands?
Sur la condition des grands.
Pour mémoire, comment ne pas penser? Quand vous commencez une phrase comme ça, Paola, soyez sûre de votre référence. Comment ne pas penser? Non, c'est vrai. Dans les trois discours sur la condition des grands, Pascal a cette phrase au jeune duc de Luynes: c'est pas parce que vous êtes duc que je vous estime, mais c'est parce qu'il faut que je vous estime, mais c'est parce que vous êtes duc qu'il faut que je vous salue. Il n'est pas nécessaire parce que vous êtes duc que je vous estime, mais il est nécessaire que je vous salue. Ce qui est extrêmement vexant à entendre pour un duc. La thèse de Pascal étant, et on en a déjà parlé, qu'on est duc par hasard. Je veux dire, on n'est pas duc de droit divin. Et évidemment, là où Pascal est formidable, et très marrant, c'est que c'est parce qu'on est duc par hasard qu'il faut laisser les gens penser qu'on est duc de droit divin. Donc Pascal est à la fois celui qui enseigne à ses lecteurs la contingence qui nous vaut d'avoir le titre que l'on revendique et la nécessité dans laquelle nous nous trouvons d'être au fait d'une telle contingence. Un bon duc ou un bon roi sait qu'il est duc ou roi par hasard, mais cette sagesse va de pair avec ce mensonge collectif, qui est un mensonge accepté par le peuple lui-même, puisque le peuple sait que tout ça n'est qu'un hasard, mais il a besoin de penser le contraire. Et donc, du point de vue de Pascal, c'est parce qu'on est duc ou roi par hasard qu'on doit faire penser le contraire ou qu'on doit laisser le peuple penser le contraire. Dans la mesure où les gens ne supportent pas d'apprendre ce qu'ils savent. Les gens détestent apprendre ce qu'ils savent, et s'ils apprenaient qu'on est duc que par hasard, ils apprendraient ce qu'ils savent déjà. Alors, chez Chamfort, ça tient en 8 mots, paragraphe 60. L'importance sans mérite obtient des égards sans estime. C'est la version que Chamfort propose du « il n'est pas nécessaire parce que vous êtes duc que je vous estime, mais il est nécessaire que je vous salue ». Chamfort est pascalien de façon plus subtile encore, moins évidente, quand il dit « le plaisir peut s'appuyer sur l'illusion, mais le bonheur repose sur la vérité ». Il n'y a qu'elle qui puisse nous donner celui dont la nature humaine est susceptible. L'homme heureux par l'illusion a sa fortune en agiotage. L'homme heureux par la vérité a sa fortune en fond de terre et en bonne constitution. Il y a une différence entre être heureux par hasard ou être heureux par raison. C'est pas la même chose. De la même manière, souvenez-vous, qu'il y a une différence dans la République de Platon entre celui qui mène une vie vertueuse par habitude et celui qui mène une vie vertueuse parce que la philosophie l'a conduit à le faire. De la même façon que chez Pascal, le peuple se trompe parce que même quand il a raison, il ne sait pas pourquoi il a raison, contrairement à l'homme habile qui, lui, sait pour quelle raison il pense ce qu'il pense et par conséquent adhère aux opinions du peuple, mais, dit Pascal, ajoute Pascal, par la pensée de derrière. C'est la même histoire. C'est la même histoire. C'est la différence que fait Chamfort entre le plaisir et le bonheur. Le plaisir, c'est une contingence, le bonheur, c'est une construction. Voilà. Il y a une construction qui relève de l'art, de la raison, d'une rationalité à l'épreuve.
Alors il y a aussi le paragraphe 167 où Chamfort donne sa version des demi-habiles de Pascal.
Est-ce que ce sont ceux de Pascal? Je ne sais pas, mais ce sont les demi-habiles.
Oui, dont parle Pascal.
Il faut le donner à entendre à nos auditeurs.
N'est-ce pas une chose plaisante de considérer que la gloire de plusieurs grands hommes soit d'avoir employé leur vie entière à combattre des préjugés ou des sottises qui font pitié et qui semblaient ne devoir jamais entrer dans une tête humaine? La gloire de Bell, par exemple, est d'avoir montré ce qu'il y a d'absurde dans les subtilités philosophiques et scolastiques qui feraient lever les épaules à un paysan du Gâtinais doué d'un grand sens naturel. Celle de Locke, d'avoir prouvé qu'on ne doit point parler sans s'entendre, ni croire entendre ce qu'on n'entend pas. Celle de plusieurs philosophes, d'avoir composé de gros livres contre des idées superstitieuses qui feraient fuir avec mépris un sauvage du Canada. celle de Montesquieu et de quelques auteurs avant lui, d'avoir, en respectant une foule de préjugés misérables, laissé entrevoir que les gouvernants sont faits pour les gouverner et non les gouvernés pour les gouvernants. Si le rêve des philosophes qui croient au perfectionnement de la société s'accomplit, que dira la postérité de voir qu'il ait fallu tant d'efforts pour arriver à des résultats si simples et si naturels ?
Oui, c'est bien ça. Hein, c'est formidable parce que, vous savez, c'est tous ces gens qui se font une gloire de l'emporter sur des abrutis. Ou bien, je ne sais pas moi, c'est imaginer par exemple un spécialiste de Darwin qui débattrait avec un créationniste. Alors, quand on est petit, quand on est jeune, on a peut-être envie de porter le fer contre le créationnisme. Enfin, on a face à face deux individus. Il y en a un qui emploie la raison et l'autre qui dit absolument n'importe quoi. Absolument n'importe quoi. Le premier n'a pas à se faire une gloire de l'emporter dans le débat qui l'oppose au créationniste. C'est comme, il y a comme ça un sketch des Monty Python, vous savez, où on voit un tank, puis un hélicoptère qui passe, enfin un tank qui tire sur un endroit très précis d'une forêt, puis un deuxième tank, puis un troisième tank, puis un hélicoptère qui se met à jeter des bombes, puis ensuite on balance des grenades, et enfin les types arrivent avec une mitraillette et finissent l'endroit à la mitraillette parce que rien n'est plus dangereux qu'un moustique à moitié blessé. Sketch des Monty Python qui renseigne sur ces fausses victoires qui sont tellement faciles que ce ne sont pas des victoires. Vous savez, c'est ceux qui, par exemple, démontrent, argument de la physique à l'appui, que Jésus-Christ n'a quand même pas pu marcher sur l'eau et qui croient apprendre quelque chose à l'homme de foi en lui expliquant que Jésus n'a pas marché sur l'eau. Ce sont les vrais cons. Et Champfort ne les supporte pas plus que Pascal. Il ne supporte pas les demi-habiles, il ne supporte pas ces gens que quelques éléments de culture suffisent à persuader qu'ils font faire un progrès dans la morale et dans la connaissance aux individus à qui, par ailleurs, ils n'apprennent rigoureusement rien.
Enfin bon, ils rangent Locke et Montesquieu et Bayle dans cette liste des demi-habiles.
Oui, mais que voulez-vous ? Il y a toujours des voilà, quand Bell explique que il y a de l'absurdité dans les subtilités scolastiques, il met un certain temps à en venir à la conclusion à laquelle un paysan du Gâtinais parvient d'emblée, si j'ose dire, parvient tout de suite. C'est vrai que la philosophie, c'est beaucoup de circonvolutions pour en revenir au bon sens, finalement. Et Champfort ne dit pas autre chose que ça. Et il est pascalien là aussi. La vraie philosophie se moque de la philosophie.
Well, now, we're going to try and raise the tone a little here by singing a nice intellectual song for those two or three of you in the audience.
Right.
Who understand these things. So, here we go. Immanuel Kant was a real pissant who was very rarely stable. Heidegger was a boozy beggar who could drink you under the table. David Hume could out-consume Schopenhauer and Hegel. And Wittgenstein was a beery swine who was just as slosh to Schlegel. There's nothing Nietzsche couldn't teach about the raising of the wrist. Socrates himself was eminently pissed.
Merci Raphaël, merci à tous, à François Connac à la réalisation, à Bernard Laniel à la technique et à Alice Ramon à la préparation de l'émission. Et comme dirait un grand moraliste de notre temps, merci pour ce moment. Car peut-être que chaque époque se pourvoit des moralistes qu'elle mérite. Quant au texte sur Champfort lu par Georges Claes, et qu'il m'a semblé important de faire entendre, l'honnêteté commande de dire qu'ils sont l'œuvre de votre père, Raphaël, Jean-Paul Antoven, et qu'ils sont extraits du chapitre « Seul comme Champfort » dans « Les enfants de Saturne ». Retrouvez-nous, chers auditeurs, sur Internet ou sur la page du Gai Savoir sur Facebook, où vous attendent téléchargements et références bibliographiques.
This is Bruce from the biology department.
All right. Okay.
Here we go.
Dans l'intervalle, si la philosophie vous manque, écoutez les nouveaux chemins de la connaissance. C'est tous les jours sur France Culture de 10h à 11h sous la direction d'Adèle Vendrette. Nous ne connaissons pas encore aujourd'hui la programmation, mais on vous les recommande les yeux fermés, évidemment. C'est de passion encore que nous parlerons la semaine prochaine, puisqu'il sera question de la troisième partie de l'éthique, où Spinoza répond au traité des passions de l'âme de René Descartes. Cette émission, qui est en partenariat, comme toutes les autres émissions, avec nos amis de Philosophie Magazine, et qu'il vous faut fréquenter chaque semaine.
Aristotle. Aristotle was a bugger for the bottle. Hobbes was fond of his dram. And René Descartes was a drunken fart. I drink, therefore I am. Yes, Socrates himself is particularly his. Ah, lovely little thinker, but a bugger when he's his.
17h sur France Culture, dans un instant, l'Atelier du Pouvoir, Thomas Vider, Vincent Martini.